Nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci d'être avec nous, parmi nous. Tu vois que nous avons besoin de toi continuellement et encore ce soir, nous voulons vraiment déposer chaque chose à tes pieds. Et nous croyons que toi, tu es connecté avec nous directement dans nos cœurs. Il est difficile de se connecter à travers Internet. Mais toi, tu es toujours relié avec nous. Et encore ce soir, tu veux te relier avec nos cœurs. Tu vois notre fatigue, tu vois chaque situation. Viens-nous en aide. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ, cette force, cette puissance, cette vertu qui habite seule en toi. Et que cela sorte encore ce soir. Donne-nous la satisfaction dont les cœurs ont besoin de recevoir de toi. Bénis nous tous ensemble, tous ceux qui sont aussi connectés sur Internet, tous ceux qui sont ici de cette salle, bénis chaque cœur. Sois avec nous et révèle-toi à nous. Nous avons besoin d'entendre, de sentir ta présence dans nos vies. Et nous croyons que cette soirée, tu vas courir parmi nous. Nous te remercions, nous t'adorons. Tu es glorieux, tu es merveilleux et tu vas accomplir chaque chose. Tout ce que tu as commencé avec l'Église, tu vas l'accomplir. Et nous croyons qu'encore ce soir, tu vas encore faire cela. Nous te remercions, nous t'adorons. Nous te remercions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons lire. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons prendre la page 406. Nous allons continuer la lecture de la prédication du frère Branham sur les Hébreux. Donc il y a pas mal de choses à dire et on continue la lecture. Voilà, on lit. Ce Melchisédek était Dieu. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu tabernaclait, demeurait. Maintenant, Melchisédek. Jésus avait papa et maman, mais cet homme-là n'avait pas eu ni père ni mère. Jésus avait un commencement dans la vie et une fin de vie, mais cet homme-là n'avait pas père ni mère, ni commencement de jour ni fin de vie. Mais il était ce Melchisédek. Et Jésus était des hommes, mais Jésus était modelé, le corps, sur son propre fils, né et modelé selon le péché pour ôter le dard de la mort, pour recevoir des fils et des filles à lui. Comprenez? Voilà le motif pour lequel lui, il a eu un commencement et il aura une fin. Donc, le frère Franco dit qu'on va lire quelques passages des Écritures pour mieux expliquer cette chose. 2 Corinthiens 5, 21. Nous allons commencer par 2 Corinthiens 5, 21. Chapitre 5, verset 21. Un passage connu de tout le monde et qu'on entend souvent, une prédication. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Voilà, le frère Franco explique ce que frère Branham voulait dire. Donc c'est confirmé toujours de la parole de Dieu. Et aussi Galates 3,13. Dans Galates 3,13. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Voyez? Voyez combien de choses il a pris dans son être. Il est né de ce corps de péché. Il a pris tout ça, tous ses péchés sur lui. Voilà pourquoi, dans Isaïe 53, il est écrit qu'on parle de ses souffrances. Combien de souffrances est tombée sur cet homme et combien de grâce à travers cet homme appelé Jésus de Nazareth, qui est Dieu, combien de grâce nous avons reçues. Amen. Vous voyez? Il a été. Christ n'a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations. Aux nations, dans le Christ Jésus, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. S'il n'y avait pas eu cette chose, alors nous, on serait restés longtemps, loin, loin de Dieu, dans nos péchés. Et on peut dire de la mort éternelle, définitive. Mais Dieu nous a fait grâce. Voilà cet homme, né dans un corps de péché. Ésaïe 53, 6, que nous connaissons. Ésaïe 53, 6. Ésaïe 53, 6. Nous avons tous été errants, comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est une parole profonde. Ceci est arrivé parfaitement, parce que tous les péchés, l'incrédulité, tout ce qui est sorti de la Genèse du Jardin d'Éden, tout ce qui était mauvais et qui est arrivé jusqu'à nos jours, le Seigneur Dieu en Christ Jésus a pris chaque chose, il a tout fait. Voilà pourquoi on a cette assurance, cette confiance que les péchés, tous les péchés, chaque chose, chaque iniquité a été ôtée à travers l'œuvre de Golgotha du Seigneur Jésus-Christ. Et ça devait être comme ça. Autrement, on serait mort dans nos péchés. On serait mort dans notre incrédulité. Alléluia. Que Dieu bénisse nos cœurs. Amen. Parce que cette chose est profonde et que, à partir de là, tout le corps est édifié à partir de cette œuvre, la pierre angulaire. Amen. Nous continuons. Nous continuons la lecture de Hébreux, la prédication Hébreux du frère Branham. Mais ce corps parfait, en commémoration de la résurrection, Dieu n'aurait pas permis que ce corps voie la corruption, parce qu'il avait créé lui-même, et il a généré, et il a ressuscité, et il l'a mis à sa droite. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint qui a ressuscité ce corps est ici dans l'Église. Béni soit le nom du Seigneur. Et il continue à montrer les mêmes miracles et la même puissance. Et un jour, ce Saint-Esprit qui est dans l'Église criera et s'élèvera. Et sera au ciel là. Donc c'est mis à la droite de Dieu pour faire intercession. Et nous sommes parfaitement préservés du péché. Pas que nous péchions pas. Nous sommes préservés du péché de la présence de Dieu. Amen. Frère Franco dit, voyez, voilà pourquoi il y a une doctrine qui s'est installée disant qu'aujourd'hui nous devons attendre l'effusion du Saint-Esprit pour avoir des signes et des miracles et pour avoir l'action de Dieu au milieu de l'Église. Comme on l'a dit dimanche, l'Esprit Saint du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu dans la chair, est venu dans l'Assemblée, dans l'Église. Et comme au temps du frère Branham, on parle de la restauration, de cette remise au point, tout a été rétabli. Tout a été restauré. Donc, on ne va pas chercher ailleurs. Et on ne va pas chercher dans notre incrédulité. On ne va pas chercher dans notre rébellion. Mais Dieu a tout fait. Donc il veut faire un cadeau à l'Église. Donc comme approbation de la parole de Dieu, les élus, l'épouse, comme approbation, il y a cette chose qui va arriver, qui arrivera. Ça, c'est la parole. Il faut faire attention. Voilà pourquoi je ne crois absolument pas que nous devons attendre l'effusion du Saint-Esprit afin que Jésus-Christ, afin que son esprit agisse dans l'Église. Ça, c'est faux. Ça, c'est diabolique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Voilà pourquoi le Saint-Esprit qui a ressuscité ce corps-là, donc j'ai les paragraphes, il est ici dans l'Église. Le même esprit qui a ressuscité Jésus, donc cet esprit après la mort et l'enterrement de ce corps, la résurrection de Jésus-Christ, il est assis à la droite du Seigneur pour intercéder pour nous. Son esprit est tombé sur l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, comment on peut dire que les miracles n'existent plus? Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu n'est pas parmi nous et qu'il n'est pas en action? Et cette chose-là, ça, c'est l'incrédulité de l'homme. Ça, c'est une doctrine erronée, fausse. Alors, lisons un peu Éphésiens 1, 23. Éphésiens 1, 23. C'est pourquoi il est nécessaire de rechercher la face du Seigneur. On l'a déjà lu dimanche. Je le relis. Je le relis, mais ça ne fait rien parce que c'est important. Donc, Éphésiens 1, 22. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude. On l'a lu dimanche. Bon. La communion intime, intime, personnelle, avec le Seigneur, avec l'Esprit, doit venir, doit arriver. Pas seulement dans des groupements, dans les églises, mais ça devenir personnellement. Et si ça vient personnellement, et aussi dans le groupe, alors le groupe se glorifie. Le Seigneur se glorifie dans son église, pas les églises, quelles que soient, mais son Église, attention, ça c'est important. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la force, la possibilité de pouvoir mettre en action, en pratique, ce que Dieu a dit. On continue la lecture. Parce qu'il y a un sacrifice sanglant entre moi et Dieu, entre vous et Dieu. Voilà pourquoi il est dit, l'homme appelé de Dieu ne commet pas de péché, il ne peut pas pécher. Parce que si vous êtes né de nouveau, le même Esprit Saint qui vivait dans ce corps-là vit aussi en vous. Et il ne peut pas pécher. Le sacrifice est là devant lui. Alors, si vous le faites volontairement, ça montre que c'est impossible que vous vous trouviez dans le corps. Amen. Ça, c'est l'Évangile. Le voilà. Frère Franco dit voilà. Donc là, on peut pas échapper. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire. Il y a des gens qui peuvent dire, bah, on est sauvés, tout va bien. Parce qu'il y a aussi cette doctrine-là qui existe. Hein. Disons, la doctrine du salut éternel, tout va bien, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. On peut continuer à vivre, non pas selon les règles de Dieu, non selon la parole de Dieu. Mais cette chose-là est erronée, elle est fausse. Parce que si tu vis de cette manière-là, ça veut dire que tu ne l'as pas. Ça signifie qu'encore, tu n'as pas encore reçu vraiment l'Esprit de Dieu pour être arrivé et pour ne plus pécher, pour ne plus pécher et pour ne plus pécher. Surtout, donc quelqu'un qui est incrédule, il faut arrêter d'être incrédule pour entrer dans la foi en ce que Dieu fait. Dieu te libère du péché, Dieu te libère de l'esclavage et tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Même s'il y a encore certaines choses que tu peux encore. Des fois ça t'arrive encore, mais ça fait rien. On est sauvés, nous allons de l'avant. Mais c'est pas comme ça, non, non. Parce que ça démontre qu'on n'est pas encore sauvés. Ça démontre qu'on est encore dehors et n'est pas encore dedans. On continue la lecture, et vous voyez, ça ne contredit rien des Écritures. ça lie avec les Écritures. Ce serait impossible pour ceux qui ont été une fois illuminés. Voilà où on prendra les questions. Parce que prenez-les. Voilà pourquoi on veut des questions. On veut des questions comme ça. Notez, notez. Donc le frère Franco dit, désolé, mais. Donc lisons un peu dans Hébreu. Et lisons un peu dans Hébreu 10. Hébreu 10. On l'a déjà lu avec la prédication du frère Branham, on l'a déjà lu. Verset 26. Hébreu 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. Ça, on l'a déjà relié avec le blasphème contre le Saint-Esprit. On a déjà fait cette liaison. La fois dernière, on a lu ça. Et aussi dans Hébreux 6, 4. Hébreux 6, 4. Il y a une différence, ça il faut comprendre. Il faut l'avoir scellé dans le cœur, il y a une différence ici. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté du don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir et qui sont tombés, donc les choses surnaturelles, les choses spirituelles, surnaturelles, les miracles, les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance. Donc, c'est impossible qu'ils tombent. Frère Branham l'a expliqué. Parce qu'une fois que vous êtes entré, on ne peut plus tomber. C'est ça que ça veut dire. Ils ne peuvent pas. C'est impossible qu'ils tombent. Ça, vous avez compris ça maintenant. Ceux qui sommes ici, nous qui sommes ici et ceux qui écoutent, j'espère que vous avez bien compris. C'est impossible qu'on tombe. La chose est faite. Amen. Voilà pourquoi la différence entre ces deux passages d'Hébreux 6 et l'Hébreux 10. 26. C'est ça la différence. La chose est sérieuse. On continue la lecture. Notez, il est impossible pour ceux qui ont été illuminés de tomber pour à nouveau être renouvelés. Parce qu'il crucifie à nouveau Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et le porte à l'infamie. Ce n'est pas possible qu'il le fasse. Ensuite, continue à l'Hébreu 10, où il est écrit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Si vous voyez délibérément l'Esprit Saint qui fait des choses, l'Esprit qui a fait des choses ce matin, vous avez vu. Et que vous vivez dans l'Église, parmi son peuple, et que volontairement vous le rejetiez, il est impossible que vous soyez à Dieu, parce que vous avez blasphémé l'Esprit Saint. Vous avez compris, le frère Franco dit? Voyez la différence entre Hébreux 10, 26 et Hébreux 6, 4. C'est ça la différence. C'est impossible. Hébreux 6, 4, c'est impossible. Qu'ils tombent. Ils ne peuvent plus pécher. C'est fini, c'est fini. Ils sont entrés vraiment pour être préservés du péché. Ou l'incrédulité, tout ce qui nous entoure, ça n'existe plus. Ils sont vraiment les élus de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, scellés, scellés, attention. Vous pensez que c'est une parole grave? C'est scellé, scellé. N'attristez pas l'Esprit Saint par lequel vous avez été scellé. C'est Éphésiens. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc là, on parle d'une personne. Que qui refuse, quand il y a une personne qui refuse la vérité, même s'il sait que c'est vrai, eh bien malheureusement, il y a des cas où il y a des gens qui refusent, ça ne les intéresse plus, c'est fini. Et ceux qui rejettent comme ça, c'est grave. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons être attentifs. Les gens doivent faire attention à ce qu'ils font. On continue la lecture. Jésus a dit la même chose. Il disait, oh, lui, c'est Belzébub. C'est un devin. C'est un diable. Jésus s'est tourné, il a dit, je vous pardonnerai pour cela. Mais quand le Saint-Esprit viendra et accomplit ces choses, prononcer une parole contre cette chose sera non pardonnable. Ce ne sera pas pardonné ni dans le monde à venir. Parce que vous avez appelé le Saint-Esprit de Dieu, qui était en lui, un esprit immonde. Frère Franco dit, voyez, au temps du frère Branham, vous avez vu le messager que Dieu a envoyé à l'église de Laodicée. Ils ont vu des signes et des miracles. Ils ont vu des choses spectaculaires, surnaturelles. Exactement ce qui s'est passé pendant le ministère de Jésus-Christ, ces mêmes choses sont arrivées. Ça n'est jamais arrivé avant une telle manifestation, même pas pour Paul, quand on parle des ministères, quand on parle des... Même Paul, mais à la fin, avant que le Seigneur revienne, où tout devait être restauré, il devait y avoir une manifestation afin que le monde voit. Que surtout, il faut se préparer, mais surtout, l'épouse de Jésus-Christ doit se préparer pour rencontrer le futur époux Jésus-Christ. Donc, les choses étaient claires. Les sourds entendaient, les aveugles voyaient, ceux qui étaient boiteux, ils marchaient, les morts ressuscitaient. Donc, exactement ce que Jésus a fait pendant son ministère. Et le frère Branham, c'est-à-dire l'Esprit Saint, donc le ministère du Fils de l'homme, a fait encore plus. Jean 14, 16 dit que vous ferez des choses majeures, pas de qualité, mais en quantité, encore plus. Donc, à travers Christ, c'est ce qui a été manifesté. Christ, à travers Frère Branham, ces choses ont été manifestées. Donc, voir ces choses-là et les refuser aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, je parle ici. Donc nous, on n'a pas refusé, on sait en qui on a cru, on sait. Mais c'est pour vous expliquer une chose. Donc j'explique à une petite assemblée ici, mixte, donc de diverses personnes. Nous voyons que cette chose est comme ça. Donc 1 Jean, lisons 1 Jean. 5, 16. 1 Jean, 5, 16. Jean 5, 16. 1 Jean 5, 16. Et si quelqu'un voit son frère pécher de péché qui ne soit pas à la mort, il demandera pour lui et il lui donnera la vie, savoir à ceux qui ne pêchent pas à la mort. Il y a un péché à la mort. Pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il demande ou qu'il prie. Toute iniquité est péché. Et il y a tel péché qui n'est pas à la mort. Amen. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le péché ne le touche pas. Amen. Alors, un autre passage dans Matthieu 12.
Quello che succede nel mondo e anche nel mondo religioso.
Donc, ici. Donc ici, dans Matthieu 12. Donc toute maison divisée ne peut subsister. On peut lire à partir du verset 25. Donc tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Donc Jésus a expliqué ceci. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc ce royaume subsistera-t-il? Et si c'est par Belzébul que moi je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Voyez la manifestation qu'est là, que vous voyez là. Ça vient de Dieu. Donc le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est l'Esprit de Dieu, ça ne peut pas être autrement. Mais si moi je refuse ça, ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens si premièrement il n'a lié l'homme fort? C'est pourquoi de chasser les démons, c'est le don de Dieu. C'est parmi les 9 dons. C'est ça. Il faut rentrer. Il faut lier le démon qui est là. Et pour le lier, il faut être plus fort. Donc l'autorité doit être plus forte. Autrement, il n'y a rien. Le démon va rester. Vous avez compris. Voilà pourquoi il est nécessaire. Voilà pourquoi il est écrit ici. C'est important ici. Comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens si premièrement il n'a lié l'homme fort? Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Italie, partout, en France, partout. Donc il y en a qui viennent pour tuer, ou bien ils lient les personnes. Ils viennent voler ou lier les personnes. Mais pour pouvoir faire cela, il faut être plus fort. Et si ça. Alors c'est possible que le diable chasse le diable. Le diable prend d'une partie et puis il remet d'une autre. Mais quand Dieu le fait, il le fait. Il l'ôte. Quand il guérit, il guérit. Quand il chasse les démons, il chasse les démons. Fini. Il n'y a pas un moyen de retourner en arrière, non. Tandis que le diable joue. Il joue vraiment avec des mauvaises blagues. Lui, il peut pas. Sinon, il se divise lui-même. C'est écrit ici, on continue. Si premièrement, il a lié l'homme fort, alors il pillera sa maison. Celui, attention ici, c'est profond. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse, divise, sépare. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce de voir cela. Aussi dans les petites choses, de dire on va chasser les démons. Il faut faire un examen intérieur pour voir comment est cette chose. Est-ce que je suis avec le Seigneur ou contre le Seigneur? Est-ce que je suis avec lui ou contre lui? Oui, ça c'est important. Autrement, alors verset 31, tout péché et blasphème sera pardonner à l'homme. Quelqu'un, par exemple, quelqu'un a tué quelqu'un. Oh, il mérite la mort. Humainement, légalement, il mérite la mort. Mais pour Dieu, si cet homme se repent, si vraiment il se repent, c'est fini. Dieu lui a pardonné. Le sang de Jésus a effacé cet homicide, bien sûr, il paiera les conséquences, bien sûr, il va en payer les conséquences, parce qu'il est en prison, mais son âme est libre. Son âme est sauvée. Vous y êtes? Amen. Parce que les dénominations ont cette manière d'agir. Légaliste, tu as fait ça, alors tu dois payer. Voilà. Tu t'es trompé. Allez, allez, pars. On te chasse. Vous voyez, c'est de manière légaliste. Et quiconque aura dit un seul mot contre le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? N'est-ce pas le prophète? Le serviteur de Dieu. C'est-à-dire celui qui a été envoyé, celui qui est envoyé, mandaté, sera pardonné. Mais si vous le dites contre le Saint-Esprit, il ne sera ni pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le monde à venir. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'esprit? Est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'esprit? On ne peut pas. Mais l'action qui est faite à travers la puissance de cet esprit, c'est ça qui sera condamné. Ce n'est pas l'homme lui-même, la personne. Voilà pourquoi, si c'est pardonné contre la personne, le Fils de l'homme sera pardonné. Mais l'action de cet esprit à travers cet homme, à travers la puissance de Dieu, si on parle contre ça, ce ne sera jamais pardonné. Alléluia. Vous y êtes? C'est la vérité. Attention. Amen. Nous continuons la lecture. Si nous péchons volontairement, si nous péchons, donc faites attention, frère Franco. Donc, frère Franco dit, quand on est né de nouveau, on peut se tromper, mais on ne peut pas péché. Donc involontairement, on peut faire des erreurs, je ne m'en rends pas compte. Je ne sais pas comment dire. Je peux faire des choses vraiment que je ne m'en rends pas compte. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas grave. Absolument pas. Le sang de Jésus-Christ est déjà sur l'autel, c'est fait. Voilà, c'est un acte involontaire. Donc il ne se passe rien. Mais si je commence à accuser, alors là, ça devient grave. Un pécheur ne peut pas commettre, un chrétien ne peut pas commettre l'acte impardonnable. C'est pas possible. C'est l'impie qui le fait. C'est le faux croyant. C'est pas le croyant. Donc les rabbins, les juifs, ils pensaient être parfaits. Donc ils avaient des diplômes en philosophie, ils pensaient avoir tout compris et tout mis dans une valise. Mais c'était les pires pécheurs. Bon, ils pouvaient. On ne peut pas mettre un doigt sur leur vie. Ils étaient propres, moraux, justes. Mais ils étaient incrédules. Voilà, frère Franco dit, ils étaient propres, ils avaient la bonne morale, justes, de cette manière-là. Mais ils étaient incrédules, attention, c'était des incrédules. On l'a déjà lu ça, dans Nombre? Dans Nombre 13, 29, est-ce qu'on l'a déjà lu? Nombre 13, 29. Je ne sais pas si on a déjà lu ça. Je crois qu'on l'a déjà lu. Nombre 13, 29. Seulement le peuple qui habite dans le pays est fort, et les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avions vu aussi les enfants d'Anak. Amalek habite le pays du Midi, et le Héthien, le Jébusien, et l'Amoréen habitent la montagne, et le Cananéen habite le long de la mer et sur le rivage du Jourdain. Quand ils sont partis voir la terre promise, déjà, représentez-vous bien ces choses. Ils ont vu que c'était une belle terre. Ils ont vu que c'était merveilleux. Mais ils ne pouvaient pas la prendre. Parce qu'il y a eu des difficultés. Ils avaient des difficultés. la difficulté parce que la personne était trop forte pour elle. Et elle se sentait inférieure. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Et au 31. Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons hardiment et prenons possession du pays. Car nous sommes bien capables de le faire. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent ou infamer en italien, infamar, décrier, c'est important. Infamer quelqu'un, diffamer, ou décrier. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, parce que c'est la peur qui a fait ça. Un chrétien, voilà pourquoi il ne peut pas pécher, parce qu'il n'a pas peur. Mais il n'est pas incrédule, parce que la peur, c'est comme l'incrédulité. La peur, c'est l'incrédulité, donc il est nécessaire que Dieu nous donne la force et la foi de pouvoir accepter tout ce que Dieu nous présente devant nous, tout ce que Dieu nous donne, et ne pas se rébeller et obéir à la parole de Dieu parfaitement, par la foi. Par la foi. Et ici, nous voyons comment le peuple d'Israël, donc après 40 ans dans le désert, si on le voit ici, j'avais noté ici, dans 14, au chapitre 14, verset 20. Et l'Éternel dit, j'ai pardonné selon ta parole. Et Moïse a intercédé. Vous pouvez lire vous-même. Moïse a intercédé. Mais il y avait quelque chose. Donc, comme ceux qui blasphèment, ils ne meurent pas tout de suite. Parfois, oui. Ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, parfois, ils ne meurent pas tout de suite. Mais il va avoir un petit pèlerinage, il va peut faire comme un vagabond, comme Caïn dans le jardin d'Éden. Il va aller comme un vagabond et il ne va jamais trouver la paix. La paix intérieure, il ne va jamais la trouver. Il sera toujours comme un vagabond. Voilà pourquoi il est écrit ici. Verset 20. Donc, Nombre 14, 20. Et l'Éternel dit, j'ai pardonné selon ta parole, mais aussi, vrai que je suis vivant, toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Car tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes signes, que j'ai fait en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté 110 fois, et qui n'ont pas écouté ma voix, s'ils voient le pays que j'avais promis par serment à leur père, aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit, et qu'il m'a pleinement suivi, je l'introduirai dans le pays où il est entré. Et il avait déjà vu, et sa semence le possédera. Or, l'Amalekite, attention ici, à ce passage de l'Écriture. Il faudrait un peu s'arrêter pour voir comment le Seigneur est merveilleux. Or, l'Amalekite et le Cananéen habitent dans la vallée. Demain, c'est Dieu qui parle, demain, tournez-vous et partez pour le désert, vous dirigeant vers la mer Rouge. Voilà les 40 ans, les 40 années de vagabondage. Mais, au fur et à mesure, petit à petit, ils sont tous morts dans le désert. Plus que les jeunes restaient là vivants. Josué, chapitre 5. Combien sont rentrés dans la terre promise? La colonne de feu les a abandonnés, la manne les a abandonnés aussi, et Josué les a circoncis. Donc ils ont reçu le Saint-Esprit parce que la circoncision, ils ont été sanctifiés, purifiés, ils sont entrés dans la terre promise. La terre promise, c'est la terre que Dieu nous a donnée. Vous l'avez? Voici, la terre promise, c'est la Bible, l'héritage, c'est dans la Bible. L'héritage, c'est la terre promise, la parole de vie, la parole de vérité, alléluia, où il n'y a aucune incrédulité. Où il n'y a aucun moyen de péché. Abandonnez tout dans les mains du Christ. Nous servons Christ. Et nous combattons notre ennemi. Attention. Quand ils sont entrés dans la terre promise, ce n'est pas le millénium. Non. Parce que là, ils ont dû lutter. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, voyez le signe de la circoncision, celui qui reçoit le Saint-Esprit, il ne s'arrête pas en disant, bon voilà, j'ai le Saint-Esprit, je suis en, tout va bien. Non, il doit continuer à lutter, il doit continuer à persévérer jusqu'à ce qu'il arrive réellement dans la terre promise spirituelle, dans le royaume céleste. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas la fin. Le Saint-Esprit, c'est le début pour entrer dans la terre promise. Vous y êtes. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas cela, on ne peut pas combattre et on ne peut pas détruire notre ennemi. Parce que c'est ça qui fait que nous pouvons vaincre notre ennemi. La foi en Jésus-Christ, ayant reçu l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Vous y êtes. Amen. On doit sauter de joie. Amen. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Celui qui entre dans la promesse, Dieu nous donne l'esprit de la promesse pour lutter. Sinon, on ne peut pas vaincre la bataille. On ne peut pas donc faire l'action de Dieu, chasser les démons, faire que tout se passe bien comme Dieu le veut. Non, c'est seulement par l'esprit de Dieu. C'est une bataille encore à faire. Mais il y aura le moment où il y aura le millénium, ça c'est tout une autre chose, ça c'est un repos total, fini de lutter, fini la guerre. Il y aura le loup avec l'agneau, etc. Les enfants pourront jouer même avec des serpents, il n'y aura plus rien. Tous les animaux seront soumis, ils seront avec nous. Maintenant, allez-y avec un lion. Mais il y aura un moment où cela se fera. Le millénium, c'est complètement différent. Ça, c'est la juste doctrine. Attention. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, il doit continuer ses œuvres. Il doit continuer l'œuvre de Dieu, que Dieu nous a donné à faire. Autrement, pourquoi est-ce que Dieu a donné le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu le donne? Alléluia. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est un type, c'est un symbole d'Israël qui est arrivé au bord et il arrive à voir la parole, il arrive à voir l'action de Dieu. Il sait que durant le pèlerinage, avant d'arriver à la terre promise, Dieu a donné la manne, Dieu a fait manger des cailles, les chaussures ne se sont pas abîmées, les vêtements ne se sont pas abîmés. Donc c'est un miracle continuel. C'est un miracle continuel. Ils ont vu toutes ces choses. Ils ont vu tout cela. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, et qu'ils devaient passer de l'autre côté, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. L'incrédulité. Ils n'ont pas hésité à dire, oh non, on ne pourra pas y aller. Ils voulaient même lapider. Aujourd'hui, ceux qui sont avec le Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas l'Esprit, veulent lapider ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est la même chose. Même chose. Ils veulent les lapider. Attention. Comment ils veulent faire? Ils commencent par parler mal avec leur bouche contre un frère. Voilà, ils l'ont déjà lapidé, ils l'ont diffamé. Voilà. Vous voyez la parole diffamer, décrier. Mais diffamer Dieu, ça c'est une incrédulité que Dieu ne peut pas pardonner. Vous voyez? Que Dieu nous aide vraiment à glorifier son nom. Mais ils étaient incrédules. On va encore le lire. C'est aussi dans Hébreux 3, 12. Hébreux chapitre 3, verset 12. Donc ça, c'est une exhortation pour nous, pour le peuple de Dieu, pour les chrétiens. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un cœur méchant, d'incrédulité. Un cœur méchant d'incrédulité, en ce qu'il abandonne le Dieu vivant, ou se détourne du Dieu vivant. Mais au contraire, exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Attention, car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout le commencement de notre assurance. On a été participants de l'onction. Christ, c'est l'onction. Il est saint. Christ, c'est l'onction de Dieu. Amen. Alléluia. jusqu'à la fin, le commencement de notre assurance. Et aussi, Hébreux 4, 6, puisse donc qu'il reste que quelques-uns y entrent et que ceux qui auparavant avaient été évangélisés ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Encore une fois, il détermine un certain jour, disant en David, si longtemps après, aujourd'hui, comme il a été dit auparavant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça, c'est une exhortation que Paul nous donne, de façon que nous puissions être fermes et rester fermes dans la foi, sans incrédulité, et croire tout ce que Dieu a fait pour nous. Amen, alléluia. Ça, c'est merveilleux, amen. Voilà pourquoi. Eux, ils sont incrédules. Là, on parle des légalistes. Ceux qui, moralement, se croient justes, mais ils manquent la foi. Il leur manque la foi. On continue à lire. Prenez la parole péché et découvrez ce que ça veut dire, le mot péché. Le mot péché signifie incrédulité. Il y a seulement deux façons de voir, ou croyant ou incroyant. Soit une personne justifiée ou un pécheur. C'est tout. Si tu es un incrédule, tu es un pécheur. Même si tu es bon, même si tu vas à l'église, même si tu es prédicateur, tu restes de toute façon un incrédule. Ces pharisiens étaient des prêcheurs, des prédicateurs. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils vont en enfer. Le plus religieux possible était là et n'a pas cru. Et il l'appelait diable. Et il discutait sa parole. Et certains d'entre eux ont dit, ah ben, si tu l'es vraiment Christ, descends de ta croix, fais des miracles, fais-nous voir. Il y a même quelqu'un qui l'a frappé avec un bâton sur sa tête. Il a dit, prophétise, dis-nous, qui t'a frappé? Toi qui te dis prophète. Et alors là, on va te croire. Et on va te croire alors. Vous voyez, ce sont des incrédules. Il faut semblant d'être croyant, mais c'est des incroyants. Non régénérés, séparés. Frère Franco dit, regarde un peu, l'apparence de la piété, mais il renie encore aujourd'hui, ce qui en fait la force, alléluia. C'est quoi la force? Qu'est-ce que la force? Quand Jésus a dit, une vertu est sortie de moi, quelqu'un m'a touché, c'est quoi la force? C'est la puissance de Dieu, c'est la foi. Toi, par la foi, tu touches Dieu. Tu touches le Seigneur, tu touches l'Esprit. Voilà pourquoi la vertu sort et te guérit et t'accorde la grâce, vous voyez, et qui te secourt. Mais ils étaient incrédules. Cette chose est grave. Mais ils paraissaient parfaits. Règle sur règle, comme Isaïe, je ne me souviens plus le chapitre. Règle sur règle. Et les tables étaient pleines de vomissements. Frère Branham a dit, mais il n'y a pas de chemin personnel avec Christ. Il n'y a pas une identification avec la parole. Voyez-vous la différence? Cependant, cette même chose existe aujourd'hui. Hommes et femmes vont à l'église. Et pieux, parfait, ne jamais mentir, ne jamais voler, et vivre la religion le mieux possible. Mais si ils sont incroyants, ils sont perdus. Ainsi dans la Bible, il y a aussi des légalistes. Vous voyez le calvinisme. Il y a ce que Dieu a fait pour vous, et les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu. Donc, on va lire quelque chose. Le frère Franco dit. Nous allons lire Jacques, c'est très important. Jacques 1, 25. Regardez cette parole de Jacques 1, 25. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite,
celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvre. Celui-là sera bien heureux dans son faire, dans son action. Alléluia. Si quelqu'un pense être religieux et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais séduise son cœur, le service religieux de cet homme est vain. Le service religieux, pur et sans tache devant Dieu, le Père, est celui-ci. De visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se conserver pur du monde. Alléluia. Vous voyez? Ça, c'est la vérité. Moi, je peux faire ça. Et après, je vais me perdre dans un verre d'eau. Parce que je ne crois pas. La parole de Dieu, je ne la mets pas en pratique. N'est-ce pas? Vous y êtes? Ça, c'est la vérité. Je me perds dans un verre d'eau. Parce que je ne la mets pas en pratique. Que Dieu nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. Tu l'écoutes, la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu, c'est juste. La foi augmente et toi tu agis. Alors là tu es approuvé de Dieu, tu es confirmé de Dieu et Dieu glorifie son nom en toi. Amen. On continue la lecture. Si vous arrêtez de dire de mensonges, si vous arrêtez de fumer, si vous arrêtez de voler, vous arrêtez de faire adultère, vous arrêtez tout ça. Si vous avez tout fait, vous avez observé tous les commandements, et si vous allez à l'église, et que vous avez été... Donc vous avez été baptisé, vous avez pris la communion, vous avez lavé les pieds des saints, vous avez tout fait. Vous avez guéri les malades, vous avez fait tout cette chose. Mais à moins que vous ne soyez né de l'Esprit de Dieu, élu, vous êtes perdu. Ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Amen. Ici, le frère Franck, on veut lire. Vous voyez qu'on parle de la primogéniture, le droit d'aînesse. Si vous voulez, si vous considérez bien le droit d'aînesse ou bien la primogéniture, Jacob le voulait à tout prix. C'était pas un pharisien. C'était pas quelqu'un qui était parfait. Dans le sens, c'était quelqu'un qui était un peu trompeur, vous voyez. Bon, il a pas joué franc jeu, mais il voulait. Il a pris le droit d'aînesse des Ahus. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Et Dieu voyait le cœur, il voyait que malgré que cet homme ne suivait pas les règles, malgré que cet homme ne se conformait pas à toutes les règles, comment il fallait faire, comme ça, à l'intérieur de lui, il y avait cette aspiration, ce désir d'avoir le droit d'aînesse, la bénédiction de Dieu. Voilà, la bénédiction de Dieu. Vous voyez, c'était quelque chose. Ésaü, ça, lui, il n'avait pas ça. Il était brave, Ésaü, courageux, un pharisien authentique, parfait. Il allait à la chasse. Il obéissait à son papa, etc., etc. Ok. Mais à l'intérieur, il était incrédule. Pour lui, ça ne l'intéressait même pas, le droit d'aînesse. Vous voyez, vous y êtes? Vous avez compris? Ça ne l'intéressait même pas. Moi, qu'est-ce que je peux en faire? Moi, je crève de faim, et puis je vais mourir, et puis qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Qu'est-ce que je vais en faire de cette chose-là? Pensez un peu, mes amis. Réfléchissez un peu. Vous voyez comment aujourd'hui, il y en a qui, ces choses se répètent pour un plat de lentilles. Et des fois, on s'éloigne complètement de Dieu. Que Dieu nous aide. À force de manger des plats de lentilles, on a un peu faim, il avait un peu faim. Mais il pouvait manger même après. Mais à ce moment-là, faites attention, gardez la bénédiction de Dieu, le droit d'aînesse. Accrochons-nous à cela. Tenez ferme. Et aussi dans Romains 9, 16, aussi dans Romains 9, 16. Romains 9, chapitre, verset 16. Ou à partir du verset 14. Romains 9, 14. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? y a-t-il de l'injustice en Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car, pourquoi? Pourquoi cette parole? On l'a lu. Est-ce que c'est unique ça? Non. Non, c'est l'omniscience, la préconnaissance de Dieu. Parce que lui voit à l'avance. Ton cœur et mon cœur, il le voit à l'avance. Avant même que vous nassiez, comme il est dit. Avant même que, comme il est écrit, que Jacob et Esaü naissent, moi j'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob. Il n'était pas encore né, vous comprenez ça? C'est la préconnaissance de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons voir un élu et un appelé. On peut faire la différence. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas de vouloir, ce n'est pas de dénigrer ou mépriser, non. Ce n'est pas de rejeter des personnes, absolument pas, non, non, non. Dieu ne fait pas exception de personne, de personne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit, soit sauvé. C'est aussi dans 1 Timothée, il ne veut pas qu'aucun pécheur meure, mais que tous se repentent. Même dans Ézéchiel, c'est écrit. Donc ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut dire, on peut voir un élu et on peut faire la différence avec un appelé. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appelés, mais peu sont les élus. Ils se soumettent, ils obéissent et soumettent à la parole de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est important. C'est très important que nos cœurs le réalisent. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est Dieu qui fait miséricorde. Pourquoi Dieu fait miséricorde? Il fait miséricorde parce qu'il voit, il fait miséricorde. Donc un abîme appelle un autre abîme, la profondeur appelle la profondeur. Il sait que dans le cœur, il y a cette chose-là, il y a ce désir. Et il en me dit, tu vois que je n'arrive pas, Seigneur, viens-moi en aide. Mon inspiration, mon désir, tout mon être intérieur, il va en avant pour pouvoir prendre tout ce que toi, tu as dit. Pour pouvoir vivre cette chose, pour pouvoir obéir à cette chose, me soumettre à toi. Amen, mes amis. Quelle grâce Dieu nous a faite de nous appeler fils et filles de Dieu. Alléluia. Ça, c'est écrit comme ça, dans Jean. Et l'élection, comme on l'a lu, comme on l'a dit, ce qui s'est passé chez nous, on a été bénis. On a été bénis. On a parlé beaucoup du Seigneur, c'est une grande joie qu'on parle du Seigneur. Le psaume 133, c'est vraiment parfait. On peut demeurer ensemble unis, sous l'onction, sous la parole de Dieu. C'est comme ce qui, l'onction qui descend de la barbe d'Aaron, et Dieu nous bénit. Et j'ai dit à ces jeunes, la chose la plus importante, principale, c'est de s'abandonner, de vivre la parole, comment dire, d'aimer Dieu, aimer Dieu de tout son cœur. Et Dieu voit les cœurs, Dieu voit leurs cœurs, Dieu voit nos cœurs. Donc j'ai noté ça ici. On ne peut rien cacher devant Dieu. Vous êtes un livre ouvert, je suis aussi un livre ouvert. Je peux me cacher de toi, homme, de toi, femme, mais je ne peux pas me cacher devant Dieu. Dieu voit tout et il sait tout. Il est omniscient, omniprésent. Il est notre Dieu. Amen. La force que Dieu nous donne, c'est quelque chose qui est surnaturel. Ce n'est pas naturel. L'homme a une force naturelle. Les médicaments, on peut donner toutes ces choses de la médecine. Mais Dieu nous donne la force surnaturelle. Quelque chose qui vient de l'esprit. Ce qu'il a donné à Jacob. Quand il a rencontré, quand il avait peur de rencontrer Esaü, il avait peur de le voir, parce qu'il avait peur qu'il se venge, etc., etc. Qui va me sauver de cet homme? Il a rencontré Dieu, il a lutté avec Dieu, avec l'ange du Seigneur, et il a vaincu. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré, parce qu'il croyait, il voulait vaincre, mais Dieu nous donne cette possibilité. Voici l'élu. Dieu nous donne cette possibilité de vaincre. C'est à toi de croire, c'est à toi d'entrer. On continue la lecture. La ligne du 122 en italien. Ésaü a cherché à faire de son mieux pour devenir chrétien, mais il n'a pas réussi. La Bible dit qu'il a pleuré amèrement, cherchant à se repentir, mais n'a pas pu. Avant qu'il naisse, Dieu l'a condamné, parce qu'il savait que c'était... Donc, le frère Branham dit Dieu l'a condamné. Frère Franco dit, c'est pas qu'il a condamné particulièrement, mais comme il a refusé, mais il a abandonné parce qu'il a abandonné le droit de naissance. Dieu le savait à travers sa préconnaissance. Il a dit j'aime Jacob et je hais Ésaü. Et Ésaü avait l'aspect d'un gentilhomme. Il était à la maison, il prenait soin de son papa, il allait à la chasse. C'est un brave homme. Et Jacob était avec sa maman, il racontait il était d'une certaine manière efféminé, bon voilà, c'est comme ça qu'il a exprimé. Voilà ce que c'était, vous devez l'admettre, la Bible l'admet, le représente. Et la maman était attachée, et lui il est attaché à la maman. Mais quoi qu'il en soit, Jacob avec toutes ses manières un peu efféminées, basses, il a eu le respect pour le droit d'aînesse. Ça, c'est la clé. Et Ésaü était deux fois plus gaillard ou grand homme. Si on pouvait le juger pour être homme de notre assemblée, on aurait pu prendre Ésaü. Mais Dieu a pris Jacob. Qu'est-ce que toi tu ferais? Si tu voulais être un serviteur, oh, ce Paul-là, avec son nez aquilin, son nez un peu crochu, mais il va casser l'église. Vous pensez, et vous allez croire qu'il a commis le péché impardonnable. Mais Dieu dit, c'est mon serviteur. Acte 9, 5, frère Franco dit, vous pouvez le lire à la maison. Dieu rend les hommes et les rend différents. C'est pas que les hommes prennent Dieu, c'est Dieu qui prend les hommes et qui les rend différents. C'est pas ce que vous faites, ce que vous voulez, nous, non, ce que vous pensez, vous, non. C'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu fait qui est important. Le frère Franco dit, voilà pourquoi Moïse, il a changé, Jacob, Samson, David. C'est Dieu qui les a rendus différents, qui les a changés. C'est pas que eux, comme frère Branham dit ici, Dieu prend les hommes et il les rend différents. Ce n'est pas que les hommes prennent Dieu. Non, c'est Dieu qui fait le travail, c'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui doit le faire, ce n'est pas un homme qui peut le faire. Dieu prend un homme et le rend différent. C'est pas ce que vous faites, ce que vous voulez, ce que vous pensez, ou c'est que ce que Dieu fait. Alors j'ai noté deux versets. On va commencer par 2 Corinthiens, deux versets de passage. 2 Corinthiens, chapitre 15. Ce sont des passages que nous connaissons. Non, ce n'est pas 2 Corinthiens 15, excusez-moi. Ce sont des passages clés, des passages importants, pour démontrer que votre vie ne vous appartient plus. Votre vie appartient à celui qui vous a sauvé, à celui qui est mort pour vous. Ça doit être vraiment une chose, un clou qui est fixe, vraiment, on peut dire un clou vraiment fixé, fixé qui ne bouge pas. Il faut dire ça, c'est net. C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est 2 Corinthiens. Si Dieu, si 1 Corinthiens 1,15, 5,15, 1 Corinthiens 1 Corinthiens 15. Donc ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, nous n'avons pas connu Christ selon la chair. Nous pouvons aussi dire que nous avons connu Christ selon la chair. Parce qu'en esprit, ça vient quelque chose de particulier, parce que le ministère du Fils de l'Homme, il y a du 1000 ans que Dieu a fait sur la terre comme manifestation de Dieu parmi le peuple, parce que lui était le Messie. Dans cette dernière génération, on a eu la même chose. C'est un corps, mais ce corps-là n'était pas Jésus-Christ, mais l'action qui était en lui, c'était la même chose. C'était comme le corps de Jésus-Christ. Nous avons vu les actions, nous avons vu les miracles, nous avons vu les caractères, les différentes manières de vivre. Nous avons vu cela. Mais malheureusement, des frères ont fait ce qu'ils ont voulu, comme avec Jean-Baptiste. Mais Dieu a fait ce qu'il devait faire. Alléluia. Dieu a fait ce qu'il devait faire. Donc, c'était 2 Corinthiens 5, 15, désolé. 2 Corinthiens 5, 16. En sorte que désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses viennent, sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Comment est-ce que vous croyez cette parole? On le croit par la foi. Il faut dire ouvertement dans nos cœurs. Comment elle est écrite cette parole ici? Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses viennent, vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Comment on peut le faire sans le Saint-Esprit? Mais si à la nouvelle naissance, la régénération, tout devient nouveau. Le vieux est, au fur et à mesure que tu marches, le Seigneur le fait effacer. Ça c'est vieux, ça c'est vieux, ça c'est vieux dehors, ça c'est vieux dehors. Voilà la restauration de l'épouse, de l'arbre de l'épouse. Ça c'est la restauration. Toutes les choses vieilles, on les met de côté. On va pas rentrer pour le monde de Joël, on la connaît. Et toutes les choses deviennent nouvelles. Et tu vois la parole de Dieu complètement différente. Tu vois les personnes même différentes. Tu vois le Seigneur Jésus dans ta vie différent, tu vois beaucoup de choses de manière différente. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Amen. Cette parole est merveilleuse. Elle est glorieuse. Galates 2:20. Et ensuite on s'arrête. Galates 2:20. Galates 2:20. Ça, c'est aussi une chose qui doit arriver chez nous, en toi et en moi, dans l'Église, dans le croyant. Cette parole qu'on va lire dans Galates 2:20. Je suis... Donc ici, c'est ce verset 18. Verset 18. Car si ces mêmes choses que j'ai renversées, je les réédifie, je me constitue transgresseur moi-même, car moi par la loi je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Je vis par foi. Je me donne entièrement. Faites attention. Mais bien sûr que vous devez continuer à travailler et faire les choses que vous devez faire. Mais en vous, vous êtes changé. Votre esprit est différent. Vos actions sont différentes. Tout change. Parce que les choses vieilles sont passées. Tout est devenu nouveau. Et chaque action avec Dieu, avec l'Esprit Saint pour vous, pour nous, c'est quelque chose de glorieux. C'est une expérience journalière et continuelle. Le Seigneur touche ton cœur, enflamme ton cœur et le réchauffe. Et quand tu as besoin, que tu souffres, quand tu es fatigué, il vient. Il vient gentiment, il sait exactement ce qu'il doit faire. Et tu repars de nouveau en disant, merci Seigneur, je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour toi. Et c'est toi qui m'alimente. C'est toi qui m'alimente. Simon, comment est-ce qu'on peut avoir de force? Comment est-ce qu'on peut marcher? Attention, que Dieu imprègne vraiment ce soir nos cœurs, la foi nécessaire pour vraiment faire les choses justes. On va continuer la lecture. Ce grand Melchisédek. Nous allons lire un peu là-dessus. On a dû l'examiner rapidement. Et nous allons commencer à un certain endroit de l'écriture. Et nous allons, à partir du 15e verset. Mais la chose est encore plus évidente à la ressemblance de Melchisédek, un autre sacerdoce. Melchisédek est un sacerdote, un sacrificateur, voici ce qu'il était. Et nous découvrons que Dieu au commencement était une grande fontaine d'esprit. Est-ce que c'est juste? La congrégation dit Amen. Il n'y avait pas de lieu de naissance et de mort, ni début de jour, ni fin de vie, il était éternel, tel que l'éternité est éternelle. Il n'est jamais né, jamais mort. Frère Franco dit, on va s'arrêter ici. Alléluia. Sinon, on va se fatiguer. Il est presque 10 heures, 22 heures. Dieu a changé Moïse. Dieu a changé Jacob. Dieu a changé Samson, David, vous voyez. Moïse était quelqu'un d'important. Mais il a fallu attendre 40 ans avant que les choses viennent de vieille soit passée et que les nouvelles arrivent. Mais Dieu l'a transformé. Dieu est le Dieu de la transformation. Dieu est quelqu'un, est celui qui change les cœurs, qui transforme. Et moi, j'y crois. Est-ce que vous croyez? Amen. Au fond, il n'a jamais blasphémé contre le Saint-Esprit. C'était l'ignorance. Si tu dis quelque chose contre le Fils de l'homme, Dieu te pardonne. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, mes amis. Nous allons prier, nous allons nous lever. Que Dieu nous fasse grâce. Et sûrement qu'il va nous faire grâce, sûrement qu'il nous fait grâce. Alléluia. Jésus-Christ, tu es ici, tu es au milieu de nous et tu connais nos cœurs. Tu es celui qui parle, tu es celui qui édifie. Tu es celui qui dépense tout don excellent. Et ce soir, tu l'as encore fait. Tu as enflammé mon cœur, tu as enflammé nos cœurs. Ta parole est merveilleuse. Nous ne pouvons pas agir sans toi. Nous ne pouvons pas vivre sans toi, sans tes exhortations, sans ta parole. Nous ne pouvons rien faire sans ton esprit. Nous ne pouvons rien faire que marcher avec toi, ô Seigneur.
Fais descendre sa bénédiction au milieu de nous, dans les cœurs, dans les cœurs. Ceux qui écoutent, ceux qui écouteront, de l'autre côté de l'Internet, fais grâce, bénis. Tu connais les besoins, rafraîchis les cœurs, glorifie ton nom. Nous arrivons à la fin, Seigneur. Chaque prophétie s'accomplit, chaque chose se met en place, Seigneur. Que vraiment la foi puisse être régénérée, fondée vraiment sur le fondement des apôtres et des prophètes, et que nous puissions te servir en esprit, en vérité, et mettre en action, en acte, tout ce que toi, tu nous fais voir, et nous voulons le croire de tout notre cœur. Ô Seigneur, bénis nos âmes, renforce notre foi, et manifeste-toi encore au milieu de nous, au milieu de cette petite assemblée, pas seulement ici. C'est une petite assemblée, c'est un petit troupeau, mais il t'a plu, il a plu au Seigneur de le bénir et donner à ce petit troupeau. Voilà pourquoi beaucoup sont désappelés, beaucoup sont appelés, mais peu sont les élus. Fais grâce, rafraîchis nos cœurs et glorifie ton nom, Seigneur, le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois qu'on travaille, il y a la fatigue, mais c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la force. Merci Seigneur pour ce soir. Il est vrai que le temps a passé vite, ô Seigneur, mais toi restes avec nous, tu restes avec nous, avec ton peuple, avec la parole que nous avons écoutée, et nous voulons la ruminer dans nos cœurs, afin que vraiment nous puissions être continuellement vraiment satisfaits de ta présence. Merci, que toute adoration, tout remerciement, toute adoration de tout frère, de toute sœur, que tout cœur qui s'accroche à toi, que tout cœur qui croit ta parole, oui Seigneur, nous abandonnons tout entre tes mains, Seigneur. À toi vraiment nos cœurs, notre foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Te remercions, Père Céleste, parce que tu démontres encore une fois la réalité. C'est vrai, ce n'est pas l'homme qui change pour toi, mais c'est toi qui fais les changements chez l'homme. À travers ton esprit, tu changes les hommes. Et tu le portes à la nouveauté de vie. Oui, c'est Père Céleste. Tu lui donnes un cœur nouveau. Plus un cœur de pierre. Mais tu donnes un cœur de chair. Nous voulons te remercier pour cette transformation, Père Céleste. Nous voulons te remercier parce que tu changes nos pensées, notre personne. Tu changes notre manière d'agir. Tu nous prends par la main, tu nous guides pour faire ta volonté. C'est vrai, Seigneur, que nous devons travailler, faire les courses, penser à la maison. C'est vrai que toutes ces choses-là, ton esprit vient et nous guide. Guide nos esprits, nos pensées. Fait que nous puissions reconnaître ce que tu fais en nous. Nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons te remercier parce que tu es Dieu vivant, fidèle, véritable. Tu es celui qui ne manque jamais à l'appel. Tu es celui qui prend toujours soin. Merci, Père, parce que si tu n'étais pas là, comment on serait, mais tu nous as fait grâce de pouvoir recevoir la lumière parce que tu es la lumière. Merci Père Céleste. Je te prie encore pour faire Gianfranco, Francesco, tous les frères qui sont absents, que tu puisses les bénir grandement. Puisses-tu Seigneur les fortifier dans la foi, les aider dans leur chemin et aider chacun d'entre nous dans notre chemin. Aide-nous à ne pas être hypocrite, mais nous regarder dans le miroir de la parole, être sincère, honnête avec nous-mêmes et avec toi, parce que tu es le Dieu éternel, le Dieu d'Israël. Et si Esaü était fidèle, était sincère avec lui-même. Et quant à Jacob, il a été sincère avec toi. Mais on sait que toi, tu connais la vérité dans les cœurs. Aide-nous, Seigneur, à être comme Jacob, sincère avec lui-même, sincère avec toi, sincère avec ta parole. Aide-nous à capter, à prendre, saisir ta parole. Et là où nous avons des manquements, Seigneur, pousse-nous, Seigneur, par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à donner tout pour ta parole, pour toi. Seigneur, fais-nous grâce. Que tu puisses nous bénir continuellement. Nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, Seigneur, imparfaits. Nous avons des manquements. Nous te remercions pour tout ce que tu fais à la croix. Même si les ténèbres de ce monde nous font du mal, c'est le Seigneur Jésus qui a vaincu pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour nous donner la vie. Merci pour ta parole qui nous fortifie. Donne-nous la force, Seigneur, la force spirituelle. Parce que ce n'est pas le corps qui apporte en seule l'âme. Vivifie-nous, Seigneur. Aide-nous, parce que nous en avons besoin. Aide-nous à aller de l'avant et combattre contre l'ennemi. Ceux qui se sentent mal, qui sont affligés, je prie de les aider. Ceux qui ont des attaques. Visite, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie pour mes enfants. Je ne connais pas leur cœur, mais toi, tu les connais. À toi, l'honneur, la louange, pour ce soir, aujourd'hui et éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, je te remercie ce soir d'être avec nous. Merci pour la force que tu me donnes. Tous les besoins. Donne la force, Seigneur. La force nécessaire. Bénis ton peuple. Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Viens nous guider Seigneur. Viens nous guider toujours Seigneur Jésus-Christ. Guide-nous, toi, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, guide-nous, Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ.